nouvelle édition de l'économie en question autour du prix Nobel d'économie 2016, attribué, on le sait, le 10 octobre dernier, à Oliver Hart et Bengt Holmström pour leurs travaux sur la théorie des contrats. De quoi s'agit-il? Ces chercheurs, nous dit le jury de l'Académie, ont développé un cadre d'analyse des multiples aspects du contrat, comme la rémunération des dirigeants, par exemple, basée sur leur performance, comme les franchises ou comme les copayeurs dans les assurances ou encore la privatisation des services publics. Du concret, donc. Mais quelles applications, quelle influence sur la pensée contemporaine, sur les courants dominants, quelle place aussi vient occuper ce nouveau prix parmi ceux qui l'ont précédé? Explications, commentaires, bien sûr, avec nos invités. Et l'occasion aussi pour eux de tenter quelques illustrations en rapprochant justement la théorie des contrats de l'actualité de la politique économique française. Qu'il s'agisse des réformes engagées par l'actuel gouvernement ou, s'il le souhaite, pourquoi pas, de celles proposées par les candidats à l'élection présidentielle. Retour donc sur quelques mois de politique nationale. Le prix Nobel d'économie 2016, la théorie des contrats appliquée à l'économie française, c'est notre sujet. Nos invités ce matin, Pierre-Yves Joffard, directeur de PSE, École d'économie de Paris, Xavier Timbaud, directeur principal de l'Observatoire français des conjonctures économiques et Benjamin Coria, professeur d'économie à l'Université Paris 13. Bienvenue à tous les trois. Et puis en fin d'émission, je vous ai demandé à chacun de venir avec un chiffre, celui que vous voulez, pris dans l'actualité nationale, internationale, et que vous souhaitez nous signaler pour son importance, son originalité, que vous souhaitez peut-être commenter, rapporter à d'autres chiffres. C'est ce qu'on verra en toute fin d'émission. C'est bien l'économie en question. Bienvenue à tous. Et nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Donc là, les lauréats. Revenons d'ailleurs pour information. Et on va commencer avec vous, Pierre-Yves Joffard, car je crois que vous n'en êtes pas peu fier quand même. Oliver Hart, membre du conseil scientifique de PSE. Et ce n'est pas le seul Nobel en plus.
Absolument. Nous avons déjà, depuis le début en fait, du conseil scientifique externe de l'École économique de Paris, il y a toujours eu quelques collègues assez réputés. Là, c'est la première fois qu'un membre du conseil scientifique obtient le prix Nobel. Jusqu'alors, on était plutôt dans... On avait recruté des collègues comme Jim Hurley, Amartya Sen, Joe Stiglitz, qui avaient déjà le prix Nobel. Donc là, on est particulièrement fiers et connaissant un peu Oliver Hart, je sais qu'il est extraordinairement heureux de ce prix. Lorsque Jean Tirole l'avait obtenu, j'ai senti une certaine frustration peut-être de sa part, parce que c'est vrai qu'il aurait très bien pu l'avoir en même temps que Jean Tirole, parce que ils ont certains de leurs travaux communs.
Ils ont travaillé ensemble, hein, ils ont publié ensemble. Ouais.
Et leurs travaux se recoupent, enfin se portent quand même sur des domaines assez proches, en tout cas pour certains des travaux de Tirole.
On peut aussi dire pour les auditeurs fidèles de l'économie en question que plusieurs de nos invités ont été des élèves de Hart, notamment Julia Cagé, qui est venue chez nous à plusieurs reprises, a suivi ses cours, elle nous l'a signalé. Et puis autre rappel utile avant de rentrer dans la discussion, et je le fais chaque année quasiment, car chaque année nous parlions du Nobel, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques, c'est le prix, le nom réel de ce Nobel d'économie, en mémoire d'Alfred Nobel. Et donc c'est une appellation impropre peut-être, on nous le dit à chaque fois, une distinction qui récompense donc chaque année une ou plusieurs personnes pour leur contribution dans le domaine des sciences. Et il a été créé en 68, soit beaucoup, beaucoup plus tard que la fondation Nobel, créée par le testament d'Alfred Nobel, 1901. Et je vois déjà Xavier Timbaud qui réagit, parce qu'on nous écrit à chaque fois pour nous le préciser.
Non mais c'est une précision qui est tout à fait nécessaire, parce que c'est tout à fait juste. Ceci étant dit, la fondation Nobel, donc qui distribue les prix Nobel, ne considère pas ce prix comme un prix
mineur.
C'est hors de sa juridiction. Et quand vous regardez sur le site de la Fondation Nobel, prixnobel.org, à ce moment-là, vous avez le prix Nobel en sciences économiques qui est mis au même niveau que les autres prix Nobel.
Non mais petit mot, parce que ça a quand même un intérêt, puisqu'on rentre sur ce sujet. Il vient d'être publié un ouvrage qui refait l'histoire de la manière dont les économistes ont négocié avec la Fondation Nobel un prix pour l'économie. Et on s'aperçoit que c'est une histoire mouvementée, complexe, dans laquelle la Banque de Suède et les économistes libéraux qui étaient derrière ont usé de toute leur influence, pouvoir de négociation et capacité de financement pour convaincre la Fondation Nobel. Donc c'est pas une histoire
simple. Mais ils l'ont convaincu.
Ça n'est pas si simple que ça, et d'autres disciplines pourraient le revendiquer aussi. Enfin, on sait que ça fait quand même débat, hein, l'économie.
Oui, non, c'est pas trivial. C'est
l'économie pas trivial, est bien servie. Autre remarque peut-être, né Oliver Hart, né à Londres certes, mais américano-britannique, et Bengt Holmström, né à Helsinki, donc en Finlande, qui travaille lui aussi au MIT depuis 1994, là encore des prix quand même très américains.
Américain,
à l'exception
oui.
de notre Gentilhomme, dont vous avez déjà parlé.
Oui, américain, et pas seulement américain. Une étude récente montrait que 40% des prix Nobel des Américains sont en fait attribués à des immigrants.
C'est-à-dire à des
Américains qui sont devenus Américains au fur et à mesure. Donc là, ça reflète quoi? Ça reflète la très forte attractivité de l'université américaine par rapport au reste de l'université dans le monde. Et donc c'est vrai que 40%, c'est énorme quand même. Hein.
Benjamin Coria.
Juste une blague, parce que c'est dans le sujet. J'ai pas le nombre exact de profs de Chicago qui ont obtenu ce prix Nobel, mais il est très élevé. Et je sais que le dernier prof de Chicago qui a obtenu le prix, à qui on a posé la question, vous êtes content d'avoir le prix, il aurait répondu, mais c'était dans les New York Times, hein. Ah oui, je suis très content parce que dans mon département, il n'y avait plus que la femme de ménage et moi qui n'avaient pas eu le prix Nobel. Bon, ceci pour montrer le surpouvoir, non seulement des Américains, mais de Chicago sur ce prix.
Et puisqu'on parle de la femme de ménage, je voudrais quand même signaler que, au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule femme qui a eu le prix Nobel.
Eleanor Ostrom, absolument.
Voilà.
Donc, en quelle année?
2009.
Et donc, c'est quand même un point important 2009. À noter.
Oui, on peut le noter en effet, le souligner même.
Domination masculine et américaine.
Et justement, le prix l'an dernier était à Angus Deaton, et là, je voudrais y revenir aussi avec vous. Il s'était attaché à démontrer, on s'en souvient peut-être, l'accumulation des richesses qui n'allait pas nécessairement de pair avec l'amélioration du bien-être. C'était quand même une ligne, une tendance qui paraissait peut-être un peu détonnante, encore que, on peut le dire aussi, d'Alfred Stieglitz. Donc, quelle est la tonalité générale des Nobel depuis, 10 ans ou 15 ans? Est-ce que on sent une inflexion assez importante, ou est-ce qu'il y a constamment des allers-retours entre, pour faire très court, hein, libéraux et un peu plus keynésiens?
Oui, Pierre-Yves Geoffard, votre sentiment, c'est qu'il y a plutôt, un aller-retour. On peut pas dire qu'il y a à la fois, quand on voit à la fois Robert Shiller qui est très critique sur la rationalité des marchés financiers à juste titre, et Gene Fama qui lui est l'apôtre de la théorie des marchés financiers efficients, qui reçoivent tous les deux le prix Nobel, on a du mal à dire qu'il y a une ligne. C'est ça récompense des travaux qui ont eu qui ont marqué la discipline. Les travaux d'Angus Deaton, oui, ils sont absolument passionnants, notamment par l'attention qu'ils portent, non seulement aux conditions matérielles d'existence, non seulement aux revenus moyens d'un pays, mais à l'ensemble de la distribution, sa grande attention à la pauvreté, notamment, et aux autres dimensions du bien-être que le revenu, la consommation, donc notamment la santé. Et ça, c'est absolument passionnant, parce que ça introduit ça élargit assez.
Oui, c'est une dimension qui était.
Absolument.
Oui, mais qui n'était pas si fréquente il y a encore.
Non, qui n'était pas si fréquente, notamment parce qu'on n'avait pas forcément les données qui permettaient d'aborder ces questions. Je crois que la révolution des données dans le domaine de la science économique est absolument considérable. C'est
Benjamin Coria.
Premier ordre en ce moment.
Non, mais le même ouvrage auquel je faisais référence tout à l'heure, hein, qui refait un peu l'histoire des Nobel et cette histoire tumultueuse, hein, des économistes avec la Fondation Nobel, va dans le sens de ce que vous dites, à savoir que l'attribution des Nobel est assez balancée entre différents courants de sciences économiques. Bon, même si évidemment on reste dans certaines limites, mais c'est vrai que il y a pas un complet monopole des orthodoxes sur le prix Nobel. C'est pas le cas.
Alors venons-en donc à ce prix, ces théories des contrats et des incitations. Est-ce que je voudrais que vous nous l'expliquiez, bien sûr. Les trois exemples que j'ai donnés, là, qui sont d'ailleurs, je l'ai dit dans le texte du jury de l'Académie, sont déjà assez explicites. Hein. On voit très bien de quoi on parle. Les salaires des dirigeants, les contrats autour au sein de l'entreprise, l'économie, donc qui est vraiment un peu du quotidien. Si on va un petit peu plus loin, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'est un modèle qui veut justement aller un peu contre un modèle d'équilibre plus général, parce qu'on ne prendrait pas suffisamment en compte justement des comportements individuels des acheteurs, des vendeurs? Est-ce que c'est cela qu'il faut comprendre dans ce travail? Comment le résumeriez-vous, messieurs les professeurs?
Précisément avec la théorie de l'équilibre général. Et en fait, de la discussion des...
Qu'on rappelle rapidement, d'ailleurs.
La théorie de l'équilibre général, c'est Léon Valras et l'idée que les marchés économiques
sont efficients,
peuvent produire un équilibre, et que par ailleurs, cet équilibre est ce qu'on appelle socialement optimal. C'est la main invisible d'Adam Smith.
Voilà.
L'intérêt de chacun conduit à maximiser...
Au bien-être de tous, en principe.
Le bien-être de tous, voilà. Alors,
idéalement.
Il y a eu des travaux très importants sur la théorie de l'équilibre général à la suite de Léon Valras, qui ont vraiment pris énormément de corps après la Deuxième Guerre mondiale, avec Arnaud de Breux et tous les théoriciens de l'équilibre général. Et puis après, il y a eu une discussion des hypothèses. Alors, les hypothèses de la théorie de l'équilibre général sont extrêmement fortes et correspondent pas à la réalité. Donc, c'est pas tellement que les agents ont des intérêts comme ceci ou comme cela, mais c'est plutôt que il y a des problèmes d'asymétrie d'information, il y a des problèmes d'incomplétude, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des échanges sur tout, parce que on ne connaît pas le futur, parce qu'on ne peut pas vérifier que les actions d'un tel ou d'un tel ont été conformes à ce qu'il devait faire, parce qu'on n'a pas la possibilité d'aller devant un tribunal pour faire reconnaître que il s'est passé une chose, donc il n'y a pas la possibilité d'avoir une information là-dessus. Donc c'est dans la discussion de ces hypothèses et dans la confrontation de ces hypothèses à la réalité, mais la réalité dans une dimension vraiment d'observation assez simple, hein, c'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas pour le coup de recours à des données compliquées là-dessus, c'est vraiment l'observation de situations de tous les jours, de cas pratiques, et de se rendre compte que ça ne marche pas comme dans la théorie de l'équilibre général, qui est vraiment un idéal dont la réalité est très éloignée. Et quand on est très éloigné de la réalité, ça c'était une partie des travaux de Hart par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'approcher de cette situation idéale?
Oui.
Alors par exemple, quand les marchés sont incomplets, on pourrait dire il faut compléter les marchés, c'est-à-dire il faut rajouter des marchés. En fait, Hart a montré que non, en rajoutant des marchés, on n'allait pas forcément vers l'idéal. Tant qu'on était loin de la complétude, on avait des marchés qui n'étaient pas efficients. Et donc, il fallait faire d'autres choses, c'est-à-dire par exemple des contrats qui vont permettre de se rapprocher de cet optimum social, alors qu'on est dans une situation qui est pragmatique, concrète, et donc loin de cet idéal de la théorie de l'équilibre général.
Oui. Merci Xavier Timbaud. Pierre-Yves Joffard, appliquons-le à l'entreprise, ce qui vient de
oui,
d'être dit.
Oui, appliquons-le à l'entreprise, c'est justement ça le point que Xavier mentionnait, c'est-à-dire il existe des entreprises. Ça, c'est une observation que tout le monde peut faire et qui est relativement seule. Or, dans la théorie la plus formelle de l'équipe générale, il n'y a pas vraiment de place pour les entreprises. C'est le point de départ de Ronald Coase qui dit s'il y a des entreprises, c'est-à-dire que tous les échanges ne se passent pas au sein du marché. C'est-à-dire qu'il y a des échanges qui sont de nature hiérarchique, qui sont de nature d'une autre nature que les échanges marchands. C'est pas vrai que toutes les entreprises externalisent toutes leurs activités. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'intérieur d'une entreprise. Donc, il faut regarder vraiment ce que c'est. Et la cause commence par poser ça et établir vraiment l'importance des coûts de transaction qui pénalisent les échanges marchands, qui sont une barrière au marché. Et donc, il faut remplacer ça par d'autres types de contrats, par d'autres types de relations qui sont des relations contractuelles. Les relations contractuelles, elles sont partout.
Oui.
Elles sont partout. Elles sont aussi dans le marché. C'est-à-dire que quand vous achetez un café au café, vous passez un contrat avec le cafetier. Alors, vous n'avez pas besoin d'écrire un contrat de 12 pages, fort heureusement. Mais vous passez un contrat par lequel vous vous engagez, si vous donnez le café, à le payer.
Voilà.
Mais il y a beaucoup de contrats qui sont...
Et lui s'engage à ce que le café soit chaud.
Et lui s'engage à plein de choses.
Et bon,
implicitement ou explicitement.
Oui. Benjamin Coriaté, rapprochons-nous un peu des exemples français, si vous le voulez bien, que j'ai annoncés.
Oui, je voudrais juste revenir sur un point, parce que une des contributions très importantes de Hart et Rostrom, c'est que jusqu'à eux, si on peut dire, la théorie des contrats qui existait, puisque ça vient au moins des travaux fondateurs de Coase, avec l'idée que une entreprise existe parce que ça revient moins cher de faire en entreprise que de passer par les marchés. Hein. C'est l'alternative qui est connue sous le nom de make or buy, hein, pour une entreprise, faire elle-même, hein, donc en interne, ou acheter. Le focus, si je peux dire, de Hart et Rostrom, c'est or contract ou contracté. Et donc, quelles sont les formes de contrats passés en sous-traitance, sous des formes différentes, etc., qui peuvent permettre de ni acheter ni vendre, hein, mais
obtenir l'alimentation souhaitée. Alors, un des exemples fameux, ça nous rapproche, c'est pas encore un cas français, mais c'est quand même un exemple fameux, ça nous rapproche des cas concrets, donnés par les auteurs eux-mêmes, notamment par Hart, c'est le cas General Motors Fisher Body. Bon, c'est un cas célèbre hein, en théorie économique. Donc, c'est Fisher Body qui fournissait à General Motors des parties extrêmement importantes, en l'occurrence la coque des voitures, bien. Et puis, il y a une très forte augmentation de la demande, hein, et General Motors s'est adressé à Fisher Body, qui, en situation de force, a dit soit je peux pas, soit a demandé des sommes astronomiques. Et donc, on arrive à des situations que les auteurs, à Arthur Ostrom, appellent du hold-up. On est pris en otage parce que, dans l'exécution du contrat, interviennent des événements, comme cette hausse de la demande, qui font que l'un des deux se trouve en position de force pour imposer à l'autre des conditions anormales.
Et que le contrat n'avait pas prévu.
Et donc, toute la réflexion, c'est comment doit-on définir les contrats, les spécifier, les renégocier, etc., de manière à faire en sorte que on se rapproche d'une situation de marché parfait, si on peut dire, et que c'est hold-up, et que c'est
ces
relations de pouvoir soient en tout cas diminuées.
Alors d'autres exemples hein, qui sont également fournis, si on va un peu plus loin là sur le texte de l'Académie, hein, je m'y réfère, les questions qui sont posées et auxquelles peuvent répondre nos Nobel, les fournisseurs de services publics, par exemple les écoles, les hôpitaux, les prisons, est-ce qu'ils doivent appartenir au public ou au privé? Ça aussi, ça se décide par des contrats, et je reviens peut-être, Esther, je ne sais pas, dites-le moi, mais sur ce que nous avons vu, le débat pour les primaires à droite, où Bruno Le Maire proposait de privatiser Pôle emploi, par exemple. C'est une illustration d'actualité. Les enseignants, les personnels de santé, les gardiens de prison, doivent-ils recevoir un salaire fixe ou un salaire indexé à leur performance? Ça aussi, nous l'avons entendu à plusieurs reprises au cours de ce quinquennat. Dans quelle mesure, enfin, les dirigeants d'entreprise doivent-ils être payés via des programmes de primes ou de stock options? Réponse, Pierre-Yves Geoffard.
Enfin, réponse en, non, mais en commentaire. Deux minutes à toutes les questions que vous venez de poser et de manière définitive.
Choisissez.
Non, ce que
après on discutera.
Non, ce qu'on sait, c'est que la forme de du mode de rémunération, la forme du contrat de travail a un impact, peut avoir un impact sur les activités qui sont entreprises par tous les membres de l'entreprise, que ce soit les salariés, les dirigeants, les managers, les actionnaires, tout ça. L'entreprise est vue souvent comme un nœud de contrat, et il y a au sein de tous ces acteurs des tas de contrats qui ont un impact sur les comportements. Alors il peut y avoir aussi parfois des effets très pervers des contrats, c'est-à-dire qu'on peut avoir des contrats incitatifs, et ça c'est toute une littérature récente qui s'intéresse à ça, qui essaie de distinguer un petit peu entre les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font leur boulot parce qu'ils aiment bien faire leur boulot, et si vous vous mettez à dire on va vous payer davantage parce que c'est bien fait, et ben ça peut détruire cette motivation intrinsèque. Ouais. C'est vrai que dans l'analyse classique de l'impact des contrats sur les comportements humains, c'est plutôt les motivations extrinsèques, c'est-à-dire c'est le l'appât du gain, si on veut, ou les conséquences sur votre portefeuille en tant qu'acteur agent économique des actions que vous allez prendre, et donc ça passe par les différents contrats. Mais il y a plein d'autres choses qui se passent aussi. Donc il faut pas. Mais le point important, c'est que quel que soit le contrat qui est conclu entre deux agents, ce contrat reste incomplet. Vous n'allez jamais pouvoir raconter tout ce qui peut se passer dans toutes les contingences possibles du monde de demain. Et donc il y a autre chose aussi qui se passe. Il faut de la place pour la confiance, par exemple, si on est dans un contrat répété, des relations répétées, il faut de la place pour la confiance pour régler les situations lorsqu'on est dans une situation que le contrat incomplet n'avait pas prévue.
Sur les services publics, par exemple, les services publics, Xavier Tambour.
Oui, je pense que Pierre-Yves vient de dire quelque chose de très important. C'est d'abord l'intuition que tout le monde a, qui est qu'on réagit aux incitations, est quand même quelque chose qui est présent. Donc en gros, si vous faites un contrat dans lequel vous récompensez la performance, dans lequel vous donnez un intérêt à réduire les coûts, à ce moment-là, à être plus efficace, à ce moment-là, vous allez avoir effectivement une plus grande efficacité. C'est quand on parle de privatiser les services publics, souvent ce qu'on a en tête, c'est ça, c'est de donner une incitation à celui qui va être l'opérateur de réduire les coûts, parce qu'en fait, en réduisant les coûts, il va augmenter son profit et aussi diminuer le prix pour celui qui a commandité le service. Mais donc cette intuition, tout le monde l'a. Et d'ailleurs, quand on écoute les débats de la primaire de la droite, on s'aperçoit que effectivement cette idée-là a bien diffusé, parce qu'en fait, on l'applique un petit peu comme une recette à tous les cas, en disant bah voilà, il faut mettre des incitations, il faut payer la performance, il faut privatiser, ça marchera mieux. En fait, nos prix Nobel, ils nous racontent une histoire qui est non, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. C'est-à-dire, il y a des cas dans lesquels ça ne marche pas. Alors, ils donnent plusieurs exemples. Vous avez parlé des instituteurs. On s'aperçoit que les instituteurs, quand on les rémunère à la performance...
Les enseignants, les personnels de santé, mais voilà, les enseignants donc...
Ou les personnels de santé, les enseignants, c'est pareil. Quand on les rémunère à la performance, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils se concentrent sur les tâches qu'on peut mesurer. Donc, par exemple, les notes de leurs élèves. Par contre, ils vont donner moins d'attention aux tâches qui peuvent pas être bien mesurées. Et donc, en rémunérant la performance, ce qu'on provoque, c'est qu'on provoque un glissement de l'attention sur ce qu'on peut mesurer et pas sur le reste. Et ça, c'est un résultat qui est assez fondamental, parce que on a parlé de l'explosion des données, par exemple, aujourd'hui en économie. Donc on se dit, avec les données, on va pouvoir mieux évaluer, mieux prendre en compte un certain nombre de questions. Mais en fait, en faisant ça, il y a des choses qu'on mesure mieux et des choses qu'on mesure moins bien. Et dans cette idée d'évaluer, de rémunérer à la performance, on aboutit parfois à des paradoxes, qui est que tout ce qui est un peu flou dans sa valorisation devient totalement négligé. Il y a un exemple fameux qui avait été donné par Hart à propos des prisons aux États-Unis. On a privatisé les prisons aux États-Unis, ça a conduit à une baisse de coûts, mais à une dégradation de la qualité de service et de la situation des détenus dans les prisons, avec... Au final, une augmentation de la criminalité, des récidives, etc. Donc, qui était désastreux socialement, mais avec un coût plus bas.
Et même économiquement, sans doute, d'ailleurs.
Et économiquement, bien sûr. Parce qu'on avait privatisé et qu'on avait porté l'attention sur le mauvais indicateur, qui est d'enfermer des gens au coût le plus bas possible, sans s'intéresser aux autres questions qui sont importantes, qui sont la réinsertion, la sécurité, etc., etc.
Oui, dans le même esprit, et pour donner d'autres exemples, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a pas chez Hart et chez Ostrom la solution, à savoir dans tel cas, voilà ce qu'il faut faire. Il y a la mise en garde de ce que suivant la nature des contrats, on obtiendra tel ou tel résultat et le moyen d'essayer de prévenir les résultats qui sont les moins souhaitables. Alors, un bon exemple dans l'esprit de ce qui a été dit jusqu'à présent, prenons même pas la question de la privatisation de l'hôpital, mais simplement la manière dont l'hôpital public aujourd'hui est financé. Et il est financé aujourd'hui essentiellement à partir de ce qu'on appelle le paiement à l'acte. C'est-à-dire que, en fonction des actes fournis, il y a une dotation qui vient. Eh bien, le paiement à l'acte aujourd'hui, la plupart des médecins et pas les gestionnaires d'hôpitaux, mais les médecins, le personnel soignant, vous disent c'est un désastre parce que on est amené à privilégier vis-à-vis des patients, les actes qui sont le plus payés en matière de dotation. Et donc, à ne pas prescrire, à ne pas exécuter les actes qui sont forcément les plus indiqués. Entre deux actes, s'il y en a un qui rapporte davantage que l'autre, on va choisir l'autre. Donc ça, c'est vraiment un cas de contrat qu'il faut absolument redéfinir différemment. Alors maintenant, sur la question de la privatisation d'un certain nombre de services publics, en lisant Hart, etc., on peut imaginer qu'éventuellement certains services seraient délivrés de manière moins coûteuse, mais s'ils sont privatisés, on ne peut absolument plus du tout exclure le fait que les agents vont chercher à satisfaire davantage leurs employeurs que le public. Que les questions de clientélisme, etc., risquent de se développer, alors que le service public s'est fait justement pour garantir l'équité et pour garantir l'indépendance des gens qui délivrent le service public de manière à assurer sa qualité.
Autre exemple encore, Benjamin Coriat, et peut-être, je ne sais pas lequel d'entre vous veut le commenter, même un peu rapidement, c'est la question des rémunérations des dirigeants d'entreprise. Là encore, on en a pas mal parlé cette année, notamment en France et ailleurs. Alors, je signale juste, c'est assez amusant que Bernd Lundström a été interviewé là-dessus par des journalistes. Très prudemment, il a répondu en scientifique, a-t-il dit. Mes théories ne prennent pas position là-dessus. Mon point de vue personnel est qu'il parle des contrats des dirigeants, sont trop compliqués aujourd'hui et que d'un autre côté, ce qui s'est amélioré ces dernières années, qu'ils n'obtiennent pas tout sur une période très courte. C'est quand même mieux qu'ils obtiennent les choses au fil du temps. Il n'empêche qu'ils les obtiennent. Cas de Carlos Ghosn. Xavier Tambour, rapidement là-dessus.
Il y a quand même un résultat important qui découle des approches d'Ostrom et qui a été...
Hart, oui. Hart et Ostrom.
Oui, c'est Ostrom notamment qui en parle.
Principalement des travaux d'Ostrom. C'est le principe d'information. C'est-à-dire que c'est important de faire une rémunération à la performance, Mais pour faire une rémunération à la performance qui fonctionne, il faut qu'elle soit basée sur des indicateurs qui indiquent véritablement la performance du manager et pas la performance en général. Donc son point est de dire, par exemple, c'est mieux de rémunérer un manager sur l'évolution du cours de l'action de l'entreprise relativement à des entreprises comparables.
Différentiel. Ouais.
Voilà, en différentiel pour bien identifier sa participation, plutôt que de rémunérer la chance en le rémunérant sur la valeur de l'action. Et un autre résultat qu'il obtient, c'est que si jamais on ne peut pas avoir d'informations, bah dans ce cas-là, il vaut mieux donner un salaire fixe. Donc par exemple, il aboutit à un résultat qui n'est pas du tout intuitif, qui est que quand on est dans un domaine qui est très risqué, qui demande beaucoup d'innovation, de prendre beaucoup de risques, bah il vaut mieux une rémunération fixe qu'une rémunération à la performance. Et ça sera plus efficace qu'une rémunération à la performance qui va conduire à des effets paradoxaux, c'est-à-dire en fait à être moins efficace et à mettre le manager dans des stratégies qui sont trop risquées par exemple, puisqu'il va gagner et jamais perdre, c'est un cas assez habituel.
Eh bien, merci pour ces enseignements, un peu rapides bien sûr, mais on aura parcouru quand même l'essentiel des thèses hein, défendues par nos deux Nobel, donc Hart et Hurtstrom de cette année, dont l'un, on le rappelle, est membre du conseil de PSE. On passe maintenant à vos chiffres, je crois que vous en avez apporté un chacun. Pierre-Yves Jaufard.
Un chiffre, 416 millions d'euros, c'est le poids économique des musiques électroniques en France aujourd'hui, qui a énormément cru ces derniers temps, et l'essentiel de ces recettes viennent des clubs, des discothèques, des festivals, donc très peu de la vente traditionnelle des supports de musique, mais en revanche un secteur économique très dynamique avec énormément, avec une forte croissance et pas mal, de plus en plus de musiciens, de compositeurs qui vivent de cette musique.
Donc pas nécessairement négatif comme on a souvent
parlé
de cette situation.
Il n'y a pas que des chiffres négatifs.
C'est juste un revirement.
Il y a aussi des messages d'espoir, il y a aussi des gens qui font des choses magnifiques et qui arrivent à en tirer des moyens de subsistance.
Et la musique se porte bien. Merci Pierre-Luc Jaufard. Votre chiffre, Benjamin Cornet.
Alors moi c'est 600. Comme 600 dollars ou 600%, c'est l'augmentation à laquelle on a assisté d'un médicament pourtant essentiel aux États-Unis, où les prix explosent. J'aurais pu prendre 5000% hein, pour un autre médicament. Là, c'est un médicament pour traiter les enfants et pour traiter des limitations sévères de la respiration. Donc, c'est un vrai scandale. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que on est ramené à notre sujet, hein, à Hurtstrom. Est-ce que le contrat passé entre la société et les pharma, consistant à les laisser libres de leur prix et de pratiquer tous les hold-up, c'est-à-dire un médicament essentiel, augmenter le prix et le bon contrat, ou bien est-ce que il vaut mieux réguler ces prix et assurer leur couverture par des systèmes de protection sociale? Voilà un beau cas d'illustration.
Merci Benjamin Coriat. Votre chiffre, Xavier Timbaud, pour conclure.
Alors moi, c'est 80 pour 1000. 80 pour 1000, c'est le nombre de personnes travaillant dans la fonction publique. On a parlé des privatisations et donc des services publics. Donc
et de la réduction des nombres de fonctionnaires, toujours dans le débat.
Donc c'est le nombre de personnes travaillant dans l'ensemble des administrations, quel que soit leur type de contrat. Donc il y a des fonctionnaires dans ces 80 pour 1000, mais il y a aussi des contractuels, il y a aussi quelques emplois aidés. Ce chiffre, il est constant depuis une dizaine d'années maintenant, donc il n'augmente pas, malgré le fait que la fonction territoriale publique est beaucoup augmentée. En fait, ça s'est traduit par des diminutions dans d'autres secteurs. Et puis ce chiffre n'est pas très éloigné de la moyenne des pays développés. La France est un petit peu au-dessus de la moyenne. Il y a des pays qui ont moins de fonctionnaires par habitant, l'Allemagne par exemple 60, ou la Grèce 33. Mais il y a beaucoup de pays qui en ont plus que la France. Le record venant par exemple au Danemark qui a, ça laisse songeur, 145 fonctionnaires, personnels travaillant dans la fonction publique par habitant.
Eh bien, merci beaucoup. Merci encore à tous les trois, Xavier Timbaud, que l'on vient d'entendre, Pierre-Yves Jaufard, PSE, École d'économie de Paris, et Benjamin Coriat, Paris 13. Nous nous retrouvons bien sûr samedi prochain. Merci à toute notre petite équipe, Laetitia Coya, qui réalise notre émission aujourd'hui avec Pierre Faucillon, Laurence Genepin, bien sûr, pour la préparation, pour la documentation. Venez nous retrouver sur Twitter et vos commentaires, et même critiques, sont les bienvenus. À samedi prochain.